au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov sur Judaïque FM.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Daniel Goldenberg. Daniel Goldenberg, qui est un écrivain, un scénariste et un acteur français.
Enfin, j'étais acteur quand j'étais très jeune. Okay. J'en ai gardé un peu, mais maintenant, je ne suis qu'écrivain.
Voilà. Et alors, il a publié un grand nombre d'ouvrages. Je vais en citer deux. Mon préféré, Le Triporteur de Belleville. Enfin, mon préféré après celui-là, bien entendu, dont nous allons parler, de Drôle d'oiseau. Roman en 1986, j'avais fait découvrir ça à mes enfants, jadis, parce que nous habitions Belleville. Une adaptation télévisuelle qui a été tirée aussi en deux épisodes sur France 2 en 2005, Les Aventures de Papa Poule. Hein oui, non, c'était bien avant 2005.
Dans les années 80.
Oui, voilà, dans les années 80. Et puis, qui était très populaire à l'époque, avec un nombre de téléspectateurs très important, du début à la fin de la diffusion. Alors, Papa Poule, je le reçois aujourd'hui. Papa Poule devenu Daniel Goldenberg.
Papa Pile-Poule.
Voilà, Papa Pile-Poule, je le reçois aujourd'hui pour sa dernière livraison, De Drôles d'oiseaux. Aux éditions Aélis. Alors, il y a une petite manchette, là. C'est un roman en forme de vitz. Alors, première question de Daniel Goldenberg. Qu'est-ce qu'un vitz ?
Ben, un vitz, c'est une blague juive. Vitz, c'est au pluriel. Alors, pourquoi j'ai écrit ce roman en forme de vitz ?
Oui, pourquoi ?
Ben, d'abord parce que j'ai commencé un livre... qui n'est pas celui-là, qui était triste, mais vraiment triste. Alors c'était terrible parce que j'écrivais, et puis je disais, mais pourquoi j'écris quelque chose aussi triste ? Alors j'ai dit, je laisse tomber, et puis j'écris ce que j'ai envie d'écrire en rigolant. Donc j'ai fait ce livre, et j'ai fait en vitz, parce que, en forme de vitz, parce que c'est la vie... des juifs, c'est-à-dire que moi j'ai dit dans mon livre qu'un juif auquel on ne raconte pas une vitz une fois par jour, une par jour, n'est pas un juif complet. Et si alors il invente une vitz, alors là, c'est un bienfaiteur de l'humanité et des autres aussi peut-être. Bon. Donc voilà, et moi, entre parenthèses, j'ai inventé une vitz. Et ce que le plus extraordinaire, c'est que cette vitz m'a été racontée. Il dit, tu la connais, celle-là ?
Alors ?
Non. Bon, ça, c'était pendant le... Alors, je vais dire quelque chose avant. Irvel Reden auf Französisch. Mein Yiddish is schlecht. Il red Yiddish via a goy. Il reden auf Französisch via Yid.
Oui, ça, c'est parce qu'il est modeste. Alors, comment on appelle un auteur de vitz ?
Un vitzeux. Et donc, la blague, c'est ça. C'est deux vieux juifs qui se rencontrent. Il y en a un qui dit, alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de mariage pour tous ? Maintenant, ils se marient tous, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Alors, lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je pense ? C'est le progrès, la vie, ça avance. Alors, ils se marient. Mais s'ils s'aiment, pourquoi ils ne se marient pas ? Et puis, les femmes, les hommes, bon. Et toi ? Ah oui, moi aussi, je pense qu'il ne faut pas marcher contre le progrès, mais quand même, il y a quelque chose qui me tracasse. Mais qu'est-ce que c'est qui te tracasse ? Il dit, écoute, voilà. Il y a des enfants qui vont avoir deux mères juives.
Oh là là, bon, bon,
alors, pas mal, hein.
Elle est pas mal, bon. Elle est pas mal du tout.
Et on me l'a raconté, j'ai rien dit. Hein.
Bon. Oui.
D'ailleurs, alors, personne ne m'aurait cru.
Bien sûr. Alors celle-là, elle est dans le bouquin ?
Elle est dans le bouquin, oui.
Ouais, elle est dans
et
le bouquin.
Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que moi, ma vie s'est écoulée comme ça. J'ai toujours entendu des histoires... des vitz, de mon père, des amis. Et puis moi, j'en ai toujours raconté. Et puis j'ai écrit des livres. Et tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça, mettre en scène un écrivain bon, qui me ressemble, bien sûr, bon, puisque bon. Et puis sa vie d'écrivain, et puis sa vie de Witz. Et dans le livre, il y a une histoire, il y a plein d'histoires, justement. Mais Maïs, c'est plein d'histoires. Voilà. Et puis, il y a des Witz.
Voilà. Et on commence
elles arrivent comme elles arrivent dans la vie, c'est-à-dire naturellement. Oui. Voilà.
D'accord. Mais c'est quand même un roman.
Ah, c'est un roman. On pourrait presque dire que c'est...
C'est pas un recueil de blagues.
Non, pas du tout. Alors, non, c'est un roman en forme de Witz.
Il y a trois parties.
Oui.
Voilà. Il y a une première où le narrateur cherche son sujet.
Oui.
Voilà. Il rencontre un éditeur.
Enfin, c'est son éditeur depuis longtemps.
Oui.
Enfin, bon, ça fait rien. C'est...
Bon, voilà. Il rencontre un éditeur, il y a une troisième partie.
Oui.
Voilà. Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ces étapes-là du roman?
Ben, c'est-à-dire...
Entre
quelques vites, il se passe que c'est l'histoire d'un auteur, d'un écrivain. Il est à court de sujet. Et puis... Il trouve dans Shalom Aleichem une nouvelle très courte de deux précepteurs.
Les deux précepteurs.
Alors, je le dis entre parenthèses, il y a eu vraiment des coquilles. À un moment, ils sont percepteurs, après, ils sont précepteurs. Parce que c'est... Mais j'ai corrigé. Hein, bon.
Oui, d'accord.
Et donc, il commence à écrire son roman,
ouais.
En arrangeant, bon, il collabore, hein, disons, avec Shalom Aleichem. Et au moment où il est en pleine écriture, et tout d'un coup, son éditeur arrive et lui dit « Oh là là, mais j'ai quelque chose de formidable pour vous, vous allez être nègre. » Alors il dit « C'est déjà difficile d'être blanc, moi je ne veux pas être nègre de personne. » Il dit « Si, vous allez gagner beaucoup d'argent. » Alors voilà, c'est un espion... international freelance
Mandrake.
Qui veut écrire ses mémoires.
Ouais.
Et je dis, mais et lui, il n'écrit pas. Il dit, non, lui, il n'écrit pas. Et donc, vous allez le rencontrer, gagner plein d'argent. Et je dis, mais précepteurs, vous les retrouverez, vous pouvez faire les deux en même temps. Et donc, c'est l'histoire de l'auteur qui est partagé entre les mémoires de l'espion international freelance.
Ouais.
Et de sa propre création des deux précepteurs.
Voilà. Mais il y a un personnage central, quand même. Il y a un drôle d'oiseau.
Il y a un personnage, d'ailleurs, j'ai dit de drôle d'oiseau parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Alors, il y a un personnage...
Voilà, il y en a une centrale, quand même.
Centrale, qui s'appelle Feigele.
Petit oiseau.
Et le petit oiseau. Et on l'a toujours appelé Feigele. Voilà. Alors, elle n'a pas d'autre nom. Et c'est une cousine. Alors, on ne sait pas exactement... Alors, c'est une cousine de l'auteur. Alors, on ne sait pas exactement à quel degré c'est une cousine, si c'est vraiment une cousine. C'est, bon, bref. Et alors, elle avoue 92, 95. Mais quand elle raconte ses mémoires, on se dit quand même, elle doit avoir un peu plus. Et c'est comme... comment je peux dire? C'est comme un amour. C'est un véritable amour entre Feigele et l'auteur.
Oui.
Lio, il s'appelle. Oui. Lio. Et c'est une histoire d'amour. Et elle, c'est son censeur.
Oui.
Elle lit tous ses livres et elle l'engueule. Pire qu'un éditeur. Elle l'engueule en lui disant « Mais non, mais qu'est-ce que tu écris ça? C'est pas ça. Non, tu te trompes. » Enfin, voilà. Et donc... et puis, il y a l'espion international qui est complètement maboule et qui, lui, il poursuit les djihadistes. Alors, il lui arrive plein d'aventures avec les djihadistes. Il en supprime quelques-uns au passage, parce que, comme il n'est pas policier ni rien, il a des méthodes très, très expéditives quand il veut se débarrasser. Quand il pense que c'est un peu long, qu'on ne se débarrasse pas d'eux, alors lui, il les expédie. Bon. Voilà, donc c'est tout. Et puis, au milieu de tout ça, il y a des personnages comme un ancien amoureux, de Feigele.
Oui. Ah, oui.
Il a un peu d'arthrite, il marche comme une sauterelle arthritique. Et puis, et lui, c'est un féru de blagues. Il adore les blagues. Et il en raconte à Feigele, et puis
par
il en
exemple.
Raconte à Lee. Enfin. Et c'est toujours une partie du roman, une blague, c'est moi qui surgit. Et puis le roman reprend. Et voilà. Alors, j'applique la méthode. de Dickens. Dickens disait faites-les rire, faites-les pleurer, mais surtout faites-les attendre. Alors moi je fais ça avec mes vis, parce que tout d'un coup je plante le lecteur, boum, au milieu d'un truc, voilà. Et puis hop, on part dans une vie, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et puis on revient facilement au roman. Voilà. C'est pas compliqué hein, quand même, oui, faut pas exagérer.
Non, c'est un roman à hélice.
On n'a pas besoin d'être de pense-bête dans le roman, ça va.
Oui, c'est un roman à hélice.
À hélice, et à ellipse aussi.
Et à ellipse aussi, oui. Voilà, bah oui. Et donc, dans tout ça... Alors, on a parlé des amoureux de Faye Guélé, parce que Faye Guélé, c'est quand même un sacré caractère.
Bah oui, c'est une femme qui a...
Elle porte mal son nom.
Ouais, c'est une femme qui a beaucoup vécu, beaucoup aimé, et qui... Moi, j'en fais une amie d'une amie qui a été à Auschwitz... Et elle a été aussi à Auschwitz. Elle est très jeune. Donc, c'est une part importante d'elle-même. Hein. Et en plus, elle est violemment... Elle est bundiste, en fait. C'est-à-dire, elle est violemment anti-religieuse. Et alors, quand la Torah revient... la discussion, ou quand la religion revient... Ça l'énerve beaucoup. Mais en même temps...
Ça lui colle
à la peau, quoi. Ouais. Bon, donc, il y a tout ça dans le personnage. Et puis, en plus, elle raconte qu'elle a fait du théâtre avec Stanislavski, donc ce qui, quand même, la vieillit considérablement. mais c'est sûrement pas vrai.
Oui.
Alors, dans ce qu'il y a, le tragique est vrai.
Oui.
Tout ce qu'elle raconte de sa vie, c'est un peu rêvé. Et on arrive à retrouver... la réalité, parce que finalement la réalité apparaît toujours à travers le mensonge, enfin le mensonge, c'est pas un mensonge, mais à travers l'histoire,
l'habillage de la réalité.
L'habillage de la réalité, exactement.
Oui. Et c'est ce que vous essayez aussi.
Oui,
de,
c'est ça.
De travailler aussi dans ce roman, qui est humoristique, mais quand même.
C'était la personnage dont je voulais parler, c'était Marceline Loridan. Et Marceline Loridan, ça a été une amie à moi. Et ça m'a plu de l'associer à Faye Guélé. C'est-à-dire elles ont été encore ensemble, et je raconte quelque chose qui est vrai, que j'ai vécu, et je l'ai mis dans le livre parce que il faut pas que ça s'oublie, ça.
D'accord.
Alors un jour je signais un de mes livres quelque part, et puis il y avait Marceline. Alors on s'est embrassé, tout ça, on a parlé un peu, et puis tout d'un coup est arrivée une dame de notre âge, et qui dit: oh là, Marceline, oh Miguel, alors Vichkorchar, alors elle parle comme ça, puis alors bon, elle le montrait pas, mais elle avait un numérotage sur le papier. Et puis tout d'un coup elles oublient complètement l'endroit où on est, et puis elle dit: tu te rappelles? Alors elle dit: quoi? L'appel, oui, l'hiver, quand il nous appelait, qu'il nous mettait dehors, et que si tu tombais, tu mourrais. Et toi, tu sais ce que tu faisais? Je sais, il rampe Ferguson.
J'ai oublié.
Mais non, tu n'as pas oublié. Tu sais ce que tu faisais. Bon, elle dit: tu nous racontais des blagues.
Eh oui.
Des blagues.
Eh oui.
Des blagues au moment où il y a la mort. C'est-à-dire, celui qui tombe, il va directement dans la chambre à gaz. Et ça, c'est Marceline. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et en fait, c'est pour ça aussi que qu'est-ce que c'est que ces vits? Ces vits, c'est la chose qui fait qu'on a une espèce de recul sur la vie.
Oui.
Sur les situations. Et donc, ça donne une sorte de courage, une sorte de vous savez, il y a ce proverbe, moi je l'ai mis dans un livre quand les nouvelles sont mauvaises, même si elles vous tuent, il faut continuer à vivre. Ça, c'est toutes, c'est toutes les
vites. Continuer à raconter des vites.
C'est exactement ça, une vite. Parce qu'il y en a... celle-là, je crois que je n'ai pas mise dans le livre. Il y en a une...
Elle est inédite, alors.
Que je trouve très, très bien. Ça se passe en Pologne, autant... Enfin, de toute façon, en Pologne, ça a toujours été terrible, avant ou après, et pendant et maintenant. C'est un petit garçon qui a un Zaide, et elle lui dit...
Mon père.
Zaide, sag mir, du bist ständig a Schneider? A Schneider? Ich bin a Explorateur. Tu as été un Explorateur? Oui, mais où? Mais dans la forêt, là-bas, j'explorais. Mais qu'est-ce que tu explorais? J'explorais tout ce qui était à explorer. Et puis, un jour, il y a un tigre.
Ah oui.
Il me voit, je prends mon fusil, je le vise, paf, je tire et je le manque. Oh oui, et alors je cours, je jette le fusil, je cours, et le tigre il court, et moi je monte dans un arbre, et le tigre il monte dans un arbre, et puis il m'attrape, et il me mange.
Aïe.
Aïe, il t'a mangé, oui, mais Zaide, tu es toujours vivant. Est-ce que c'est une vie, ça? Là, c'est tout le résumé. Hein.
Voilà. Puis vous les racontez si bien, Daniel, et même vous les écrivez. Vous les écrivez aussi. Alors, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est cet éditeur, parce que c'est un drôle de contrat qui lui fait signer. C'est un contrat en forme de vitz, finalement.
Oui, parce que
il est pas juif, l'éditeur.
Si.
Ah, il est juif. Ah bon, j'avais pas compris ça.
Il est juif. Si, c'est intéressant. Lui, il s'appelle Uccello. Alors,
vous savez,
en italien, Uccello, c'est oiseau. Alors, il s'appelle Uccello parce que son père était un amoureux du peintre Paolo Uccello. Alors, il a appelé son fils Uccello. Pourquoi pas? Parce que maintenant, on appelle ses enfants comme eux. Bon, donc, il s'appelle Uccello.
Uccello Pera.
Pera. Mais en fait, il s'appelle pas Pera, il s'appelle Perez. Mais quand ils sont arrivés d'Espagne, lui, il a été d'abord à Venise où il a fondé une synagogue. Bon, puis après, il est allé dans le Piémont. Et là, il a supprimé des lettres. Alors, il a retiré un et c'est devenu Pera. Mmh. Mais en fait, c'est un juif anciennement séfarade, toujours séfarade, et qui est anarchiste en plus.
Ouais.
Alors, il a fui l'Italie fasciste, et puis il a ses parents, puis il est venu et il est éditeur. Et c'est un tout petit éditeur. J'ai un peu pris modèle sur le mien. Quoique le mien est moins drôle que je trouve que.
Oh, en réalité, pas dire du mal, Daniel.
Non, mais il est moins drôle, c'est-à-dire il est plus sérieux, disons.
Oui.
Voilà, et donc cet éditeur, un jour, est contacté par l'espion international
qui
lui dit je cherche un écrivain, il lui dit mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ça le Geschäft, vous avez qu'à dire oui j'ai tout ça. Et bon, c'est comme ça qu'il se retrouve à écrire les mémoires d'un espion international freelance.
Ce contrat
il fait trois pages, et puis alors comme c'est un rêve, moi j'ai augmenté terriblement les sommes. Alors il touche des avances fabuleuses, etc.
Oui.
Et puis comme c'est secret, comme c'est tout ça hors d'impôt, l'éditeur il a préparé une enveloppe Kraft dans laquelle il y a beaucoup d'argent. Des billets de 50 euros, il y en a un paquet comme ça, et il lui dit, mais surtout, attention, hein, vous ne faites pas prendre avec tout ça, il faut que... Alors, vous allez voir, alors, il fabrique un petit sac, et il cache le fric sous sa chemise, etc. Et là, alors, c'est exactement comme le livre, parce que quand il lui donne ce paquet de fric, lui, ça lui rappelle... à l'auteur une autre histoire où il était dans une situation similaire, simplement c'était pas de l'argent, c'était de la marijuana. Alors il fumait de la marijuana et il est allé chez un petit dealer qui lui a dit « Oui, j'en ai, mais attention, vous ne faites pas prendre. » Alors il lui a mis ça dans un petit sachet et puis il lui a dit « Vous vous mettez dans votre caleçon. » Alors, dans mon caleçon ? Oui, oui, dans votre caleçon, et puis vous marchez normalement, etc. Et lui, il marche avec dans son caleçon, je ne sais pas, quelques grammes de marijuana, avec la peur de se faire prendre, que tout le monde le soupçonne d'avoir, de porter dans son caleçon. D'ailleurs, je précise, ce n'est pas un caleçon, c'est un slip, parce que oui, un caleçon, oui. Ça, c'est des ouvertures qui pourraient laisser passer la marijuana, tandis que...
Voilà. Oui, il faut penser aux choses pratiques.
Et le dealer, il pensait à ça. Donc, il prend le métro, il dit, mais... Alors, il prend le métro avec ses billets aussi. Et il dit, comment je suis absolument un art ? J'aurais pu prendre un taxi, pourquoi est-ce que j'ai pris le métro ? J'aurais pu prendre un taxi qui m'aurait conduit où je voulais, par exemple à Fontainebleau. Alors la sœur lui dit, sa sœur qui est complètement la vraie sœur Yid, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait à Fontainebleau ? Il dit, mais je sais pas. D'ailleurs, si, il y a des carpes à Fontainebleau. Mais oui, mais elles sont pas farcies, elles sont là dans la pièce d'eau. Oui, mais j'aurais rejeté un œil aux carpes et après je serais reparti. Enfin, elle a toujours raison.
Oui, la sœur. Elle fait gueuler aussi, elle a fait. Elle a fait un livre de cuisine.
Oui, elle a fait un livre de cuisine. Alors, ça, c'est une histoire vraie, parce que l'histoire de la Fag, dont je me suis inspiré, elle a écrit un livre de cuisine, et puis elle a voulu qu'un rabbin fasse la préface. Alors, elle est allée voir un gentil rabbin, elle lui a donné le livre, et puis après, ils se sont retrouvés, et alors... Il lui a dit, oh, c'est très bien votre livre, c'est très bien. Mais il n'y a pas une seule recette cochère. Il a fait quand même la préface, je crois.
Voilà, il a quand même fait la préface.
Ouais. Ouais.
Bon, mais alors, le principe du vitz, quand même, de la vitz, du vitz, on dit quoi ? Vitz ? Masculin ?
Ben, c'est féminin.
C'est féminin.
Masculin. Et
masculin ? Bon.
Oui, voilà. Et donc,
non, mais c'est intéressant,
le principe...
Vitz...
Le principe, c'est quand même que c'est irrévérencieux.
Oui.
C'est pas très...
Bah, c'est-à-dire...
Les oreilles chastes...
Les oreilles chastes...
ont du mal à résister à une vitz.
Oui, il y en a certaines... qui sont assez...
Mais, oui, par exemple, vous
par
pensez
exemple,
à une...
Celle des vieux qui habitent la banlieue ou...
Ah
non.
Oui,
non, alors... celle qui est la plus... Bon, comment, irrévérencieuse, elle est assez drôle.
Oui,
bon.
On peut raconter
celle-là. C'est un vieux monsieur,
voilà,
qui a épousé une jeune femme.
Oui.
Alors vous savez que dans la tradition, épouser une jeune femme ne veut pas dire qu'elle ne va pas rigoler avec le monsieur, même s'il est vieux. Bon, quand je dis rigoler, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et alors, elle rigole pas du tout. Alors, ils vont voir un rabbin et qui lui dit, ah oui, ça. Alors, écoutez, voilà, ce que vous allez faire. Vous allez trouver un jeune homme, jeune, froum et tout, bien. Et puis, vous allez lui donner une serviette de toilette. Et puis vous allez vous coucher dans le lit, vous allez faire l'amour, et lui, il va secouer la serviette pendant que vous faites l'amour. Et là, ça marche. Alors, il rentre chez eux, il se couche, il trouve le jeune homme qui dit, vous voulez faire ça ? Oui, pourquoi pas ? Alors, il se met dans le lit, et puis il commence à faire l'amour, et puis le jeune homme, le vieux plutôt, il secoue la serviette comme ça. Rien. Alors, il retourne voir le rabbin, et le rabbin dit, ah, ouais, ça arrive quelquefois. Alors, écoutez, on va faire autre chose. C'est que la jeune femme, elle va accoucher avec le jeune homme, et vous allez secouer la serviette. D'accord ? Oui, oui, oui. Alors, ils font ça, le jeune homme se couche avec la jeune femme, et lui, il secoue la serviette. Et il secoue la serviette, ça, comme ça. Et puis là, dans le lit, il se passe quelque chose de terrible. C'est une grande partie, ça hurle, c'est content. Et alors, le vieux, il est très content. Il dit au jeune homme, voilà, c'est comme ça qu'il faut secouer la serviette.
Voilà. Voilà, voilà. Alors ça, c'est des blagues que raconte, des vits que raconte Feigele.
Non, celle-là, je crois que c'est un personnage, je crois que c'est Jankel, justement. Jankel, voilà. L'amoureux de, l'ex-amoureux de Feigele.
Oui, parce que chaque héros dans le roman a ses sortes de blagues.
Voilà, c'est ça. Non, mais ils se racontent tous des blagues, tout le temps. Même l'éditeur, même l'espion international. L'espion international, il ne raconte pas tellement de blagues, mais il est obligé d'entendre celle de Leo, parce qu'il lui, quand il arrive pour l'écouter, il lui dit « Ah, vous savez que j'ai une histoire encore. » Alors il dit « J'en ai même deux. » Alors l'autre dit bah, « Commencez par un premier, on va voir. Bon. »
Voilà. Non, l'espion international, c'est un type sérieux. Hein.
Oui, mais il écoute quand même. Oh, quand même
il est quand même dans ses affaires.
Hein. Oui, mais quand même, il écoute. Il écoute.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, dans tout ça, oui, alors les amoureux. Alors, il y a plusieurs amoureux. Il y a aussi Albert Einstein.
Ah oui, mais...
Alors, Albert Einstein, c'est un personnage aussi.
Albert Einstein, il fait partie de la famille. Ah. Il ressemble à Einstein, et il est cordonnier.
Oui.
Puis un jour, il y a...
c'est un homonyme, hein, vous avez compris.
Oui, des publicistes qui cherchent, qui tournent un film, enfin, une pub sur Einstein. Et alors, on leur a dit, mais il y a un cordonnier, Amédée de Montand, qui c'est Einstein. On rentre dans la boutique, on a l'impression que c'est lui. Il dit, ah ben, alors, ils y vont, et effectivement, il lui ressemble. Alors, ils vont le voir, et puis ils lui disent, est-ce que vous voulez tourner dans ce film? Alors, je précise que cette histoire m'est arrivée. C'est-à-dire, moi, j'ai joué Einstein dans un film... dans une série d'Arsène Lupin. Et j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Et puis, ils m'ont dit, mais lui, il ressemble à Einstein. Pourquoi est-ce qu'il ne jouerait pas à Einstein? Alors, finalement, j'ai joué à Einstein. C'était à Bruxelles, comme mon héros.
Ouais.
Alors, j'ai fait un copier-coller. Hein.
Ouais,
moi, j'étais assis en Einstein... en attendant de tourner, puis il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a dit « Professeur
ah. ».
Alors j'ai dit « Professeur, est-ce que vous auriez la gentillesse de me signer un autographe
?» Un autographe ?
Non, un autographe. Alors moi, je dis « Bon, c'est ça, Einstein, c'est comme Jeanne d'Arc.
Oui.
C'est un personnage absolument extraordinaire et mythique. »
Bien sûr.
Alors je dis, qu'est-ce que je fais? Il ne sait même pas comment il écrit Einstein. Bon, alors, bon, oui, pourquoi pas? Et alors, elle me tend un carnet. Alors je sais, Albert Einstein. Et puis à ce moment-là, arrive l'assistant qui, Daniel, on est prêt à tourner.
Eh oui. Alors vous...
Mais là, dans mon livre, ça ne se passe pas comme ça. Et lui, il est devenu ma boule. Parce que comme il ressemble à Einstein, alors il a écrit sur sa boutique qu'il fait des réparations relativement pas chères, enfin, etc., etc. Il est complètement
ça lui a tourné ouais. La tête. Mmh. Et puis, vous avez une correspondance avec,
Avec
un certain Woody Allen.
Oui, Woody Allen. Alors
ça, et qui vous répond. Hein.
Il me répond, oui.
Enfin,
évidemment.
Cordialement, mais pas trop, dit-il.
Oui, mais... parce que j'aime beaucoup Woody Allen. Et tout ce qu'il lui répond, entre parenthèses, par rapport à l'histoire, est vrai.
Oui. Hein?
Bon, c'est pas du tout c'est pas du tout inventé. Enfin, ce qu'il raconte, c'est pas Woody qui l'a dit, mais ce qu'il raconte est vrai. Bon, comme par exemple, comment Ingrid Bergman... Alors ça, c'est une histoire... Ingrid Bergman est tombée amoureuse de Russell Lee.
Oui.
Ça, c'est vrai.
Oui.
Bien sûr. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre moi, je m'en suis inspiré, où elle écrit ça.
Oui.
Voilà. Et,
Vous êtes rarement méchant dans les vits. Hein. Une vite, ça n'atteint pas beaucoup
non,
les personnes.
Non, c'est pas.
C'est jamais
non, mais
personnel.
C'est pas méchant. C'est pas méchant. Vous savez, par exemple, il y a cette histoire. Qui se passe pendant le nazisme en Allemagne. Et justement, il y a deux yids qui se rencontrent et qui lui disent « Oh, j'ai une histoire, tu sais. » Puis je te raconte. Alors, il dit, vas-y, qu'est-ce que c'est ton histoire ? Elle dit, voilà, c'est deux yides, oui, et il dit, écoute, Yankele, et alors c'est ça, Moshe, alors on dit, tais-toi, tu sais pas qui est, tu es des gestapos partout, qu'est-ce que tu racontes des histoires avec Moshe, Yankele, si tu me racontes une histoire, lui. Déguise un peu, invente quelque chose, je comprendrai n'importe comment, mais pas ça. Alors tu dis, ah, j'ai compris. Alors il dit, alors l'histoire, c'est deux papous, et le premier rencontre l'autre papou, lui dit, Moshe.
Oui, bon, alors ça, c'est, oui, c'est histoire lié effectivement à les situations.
Il y avait aussi, elle est aussi dans le livre parce qu'elle est tellement magnifique. C'est les deux yids qui veulent tuer Hitler.
Oui.
Alors, ils s'organisent, ils fabriquent un cocktail Molotov, et puis Hitler, il a une maman, et il va déjeuner avec elle tous les jeudis. Et alors, il y va à pied. Bon, l'histoire, c'est l'histoire. Bon. Et donc, toujours, tous les jeudis, à 1h de l'après-midi, il va manger chez sa maman. Alors là, c'est une toute petite rue. Alors, ils se planquent avec leur cocktail Molotov, un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ils attendent Hitler à 1h. 1h15, pas d'Hitler. 1h30, pas d'Hitler. 2h moins le quart, pas d'Hitler. 2h, pas d'Hitler. Alors il traverse la rue, il lui dit, mais alors, il dit à l'autre, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Allez, va.
Oui, alors là, c'est dramatique. Alors,
c'est dramatique, et en même temps.
Voilà.
Mais alors, aussi, il y a aussi, parce que dans les histoires juives, il y a aussi de l'innocence. Parce qu'il y a aussi cette volonté de faire rire aussi.
Oui.
Et donc de gommer un peu.
Oui, oui. Alors il y a les vides sur Israël aussi.
Oui, les vides sur Israël, parce que bon.
Sur ça, le c'est sionisme, un, sur Israël.
Oui, parce que c'est marrant. Deux yids font leur alia, ils arrivent en Israël, et puis il y en a un qui va dans un kibbutz, puis un autre, il reste à Tel Aviv. Il essaie de demander quelque chose. De faire quelque chose. Puis alors, son copain vient le voir, il dit, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Il dit, oh, j'ai une idée. J'ai ouvert une maison de ski et de luge. Alors, de ski et de luge ? Il dit, oui. Et tu en as vendu ? Non, pas encore, mais ça va venir. Alors, deux mois après, il le retrouve, il dit, alors, comment ça va? Oh, c'est formidable! J'ai déjà un concurrent!
Bon, donc voilà. Donc toujours irrévérencieux. Ouais,
c'est-à-dire que mon livre, c'est un peu un piège, parce qu'on se dit que c'est un recueil de vices. Mais là, j'ai fait un condensé, donc c'est pas... Le roman, c'est un roman quand même.
Oui, oui, oui.
Mais c'est un roman comme dans la vie d'un écrivain juif, disons.
Oui, oui. Et alors,
contemporain.
Alors, Feigl, elle habite où, à Paris?
Non, elle habite Ménilmontant.
Oui, et c'est un quartier que vous
fréquentez beaucoup. Moi, je suis né à Ménilmontant.
Vos romans sont dans ce quartier.
Oui, oui, entre Belleville et Ménilmontant. Moi, je suis né là, et j'étais à l'école là. Enfin, sauf durant l'interruption de la période tragique. Et oui. Là, on n'était plus là. Ben,
Mais vous fréquentiez toujours ces lieux-là. Et donc, naturellement, vous l'installez là.
Mais vous habitez aussi.
Oui.
Et rue des Envierges.
Voilà. Ensuite, il y a la fin de Feigele.
La fin.
La fin, oui. Le décès de Feigele.
Mais alors, est-ce que je raconte ça? Parce que, bon, on pense que... Alors, vous verrez, On sait qu'elle va mourir de toute façon, puisqu'elle est...
Elle est âgée.
Elle est âgée, d'abord. Et puis, elle vit avec la mort.
Oui.
C'est-à-dire que... Mais pas d'une façon triste. Hein.
Oui.
Et donc, à la fin, donc, elle va mourir. Et il y a son vieil amoureux,
ah.
Yankel, qui arrive à la demander d'être... d'être brûlé, incinéré. Donc, les gens sont réunis avant qu'on emporte le cercueil. Et il y a le vieil amant qui a préparé quelque chose. Et puis, au moment où il doit le dire, il s'évanouit. Alors on appelle le SAMU, on le ranime, on veut l'emmener à l'hôpital. Il dit non, moi je reste ici parce que je dois rester ici pour la bonne raison que la semaine dernière, je devais raconter une histoire à Feigelet et je n'ai pas pu lui raconter. Et maintenant qu'elle devienne cendre ou pas, je vais lui raconter qu'est-ce qu'on risque. Peut-être qu'elle l'entendra là où elle est. Et si elle ne l'entend pas, bah vous l'entendrez.
Voilà.
Alors, il raconte
c'est la dernière Witz, mais on va pas la raconter parce qu'elle est aussi référencieuse que les autres, finalement.
Oui, mais elle est irréférencieuse comme par exemple, je le cite parce que c'est bien...
Celle de la banlieue.
Oui, mais... Ça, je ne vais pas la raconter,
comme
par exemple Woody Allen, dans un film, le Café Society, il y a un personnage qui est un gangster, et puis il zigouille les gens comme qui rigolent, et puis il est condamné à la chaise électrique, et puis il se convertit au catholicisme. Et alors sa sœur, elle dit, déjà qu'il est gangster, déjà qu'on va l'électrocuter, il se convertit au christianisme. Alors, il y a le mari qui dit, mais pourquoi pas? Tu t'excites. Mais pourquoi pas? Parce que qu'est-ce qu'il y a sur la vie future dans le judaïsme? Il n'y a presque rien. Tandis que chez les catholiques, tu as le paradis, tu as les anges, tu as tout ça, et tu es reçu. Et tout ce que tu as fait de mal, lui, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a tué des gens. C'est pardonné. Tu arrives et tu vas au paradis. Alors, c'est pour ça qu'il est devenu catholique. Oui, c'est pour ça.
D'accord.
C'est irrévérencieux, quand même.
C'est irrévérencieux. Ouais. Et c'est relativiste, quoi. En fait, on relativise un petit peu les choses au regard de situations qui pourraient être plus dramatiques. C'est ça, l'idée.
Exactement.
Hein, ouais. C'est ça, l'idée. Et ce roman, effectivement, il relativise, quoi, toutes ces affaires. Il relativise, en fait, l'histoire de l'espion international et puis de toute sorte...
C'est toujours délicat de demander à un auteur de parler du filigrane, parce qu'on dit...
Voilà.
Il y a la Shoah, parce que c'est impossible pour un juif de mon âge d'occulter.
Bien sûr.
Sinon, c'est toujours là.
Bien sûr.
Donc il y a ça dans la vie de tous les personnages. Lio, comme il est jeune, il a 50 ans.
Voilà.
Mais les autres, sont tous liés à ça. Donc c'est toujours là. Et puis l'antisémitisme aussi. Voilà. Alors ça, c'est le filigrane.
C'est le filigrane. Ouais. Alors. Merci Daniel Goldenberg d'avoir présenté ce livre de Drôle d'oiseau aux éditions Aélis. La semaine prochaine, Jacques Dukofson reçoit Lucien Lazare et Alexandre Doulult pour leur livre Ni héros ni salaud aux éditions Le Bordelot. Merci Daniel Goldenberg et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie, Yankel. Et voilà. À la prochaine. À Gitio, à Chalato.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov sur Judaïque FM.